Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV,
c'est vous qui représentez le système.
Voilà, bonjour à tous, il est 9h40, soyez les bienvenus dans l'Instant M.
Vous êtes en direct, allez-y.
Ce n'est pas une série documentaire, c'est une somme. Une somme qui fera date tant elle met en scène à travers les faits, les dates et les cartes, les relations complexes, très complexes, qu'entretiennent la mémoire et l'histoire. Les routes de l'esclavage, un livre et quatre films s'ancrent résolument dans le présent, dans la capacité, pas seulement des historiens, mais de toute notre société à penser l'esclavage depuis l'Antiquité. 25 millions de personnes déportées à une époque où il n'y avait pas de pétrole, c'est la force de travail, c'est le corps même de ces êtres humains sacrifiés qui a été le moteur de la croissance occidentale à marche forcée. L'esclavage à la racine du capitalisme mondialisé.
L'Instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Bonjour Fanny Glissant.
Bonjour.
Voilà, qui arrive rayonnante en studio, productrice et co-réalisatrice de cette série en quatre volets. Alors, diffusée demain, mardi 1er mai à 20h50 sur Arte. Ensuite, 60 jours de replay, et il faut bien les 60 jours pour que chacun puisse aller piocher dans ces films qui sont extrêmement denses et en même temps très bien réalisés. C'est 5 années de travail.
Tout à fait, 5 années de travail, donc des films à voir et à revoir.
Voir, à revoir, à montrer à ses élèves, à montrer à ses étudiants. Et on le précise aussi parce que c'est assez rare en matière de coproduction dans l'audiovisuel public. Dès mercredi, on peut les voir sur France O. Voilà, parce que c'est souvent, il y a beaucoup de décalage. Et là, voilà, ça vous est offert à tous, 40 historiens, 10 voyages dans le monde. Quel boulot absolument incroyable. Alors, je vous le disais tout à l'heure, les routes de l'esclavage, c'est à la fois une nouvelle parole sur l'esclavage, c'est aussi un état des lieux des silences, des tabous, de tout ce qu'on a tué. Parce que l'esclavage, pour commencer, ce n'est pas une affaire de domination des Noirs par les Blancs. Je vous propose d'écouter Ibrahima Toub à Dakar. Il parle de construire une altérité. Il parle de ces sociétés qui disposent d'un registre large, la couleur de peau, certes, mais pas seulement.
L'intérêt des maîtres, c'est de faire croire à l'individu qu'il est esclave, non pas parce que un jour on lui a opposé un rapport de force qui est réversible, mais parce que par sa nature, il est destiné à être un esclave. C'est une idéologie extrêmement forte. Si votre sang est considéré comme un sang servile et que cette nature, vous la transmettez à votre descendance, il devient impossible de sortir du phénomène esclavagiste.
Voilà, je le disais, c'est l'une des grandes leçons de cette série documentaire dont le regard est parfois inédit. L'altérité n'est pas une question de couleur de peau.
Non, l'altérité n'est pas une question de couleur de peau. Et je crois que ce qu'on a voulu montrer, c'est comment, au départ, être esclave, c'est surtout les Blancs, les Caucasiens, qui sont majoritairement esclaves. Quand je dis ça, c'est, on va dire, du 5e au 13e siècle. Et progressivement...
D'ailleurs, esclave vient du mot slave, en réalité.
Et les progressivement, les routes de l'esclavage vont se concentrer sur le continent africain.
Et voilà. C'est ça également la grande leçon de ce premier épisode. Vous entamez la série par la traite des Africains par les Africains, c'est-à-dire que ces routes de l'esclavage sanglantes et meurtrières, elles déportèrent des millions d'hommes à travers le Sahara entre le 7e et le 14e siècle. Il y a donc une histoire africaine, d'abord africaine, de l'esclavage des Noirs par les Noirs.
Tout à fait, au début on est vraiment sur une traite qui est intra-africaine, c'est-à-dire que c'est vraiment la mise en place des grands empires, et de l'empire par exemple arabo-musulman, qui va aller chercher des esclaves au-delà du Sahara.
Pour les ramener au Caire.
Et à partir du moment où le Caire devient la grande capitale de l'Empire arabo-musulman, là vous allez avoir des routes et une intensification du système de traite entre le front méditerranéen et la bande subsaharienne.
Et alors cette première partie est absolument passionnante parce que les Noirs du Maghreb, cette Afrique dite blanche, finalement ça constitue encore une forme de tabou. L'un de vos intervenants parle d'une infection du sang, et cette infection du sang, c'est quelque chose qui est dit avec de très beaux mots dans un poème qu'on apprenait au collège quand il était petit.
Oui, c'est la Trabelsi qui raconte comme ça cette. Je pense qu'il y a eu vraiment une sorte d'omerta ou de chape de plomb, ouais. On peut dire, qui a été mis, qui était nécessaire à un moment donné, puisque politiquement, il fallait vraiment que le. J'ai envie de dire le nord de l'Afrique et le sud de l'Afrique puissent s'unir dans une entreprise anti-colonialiste, pardon. Mm-hmm. Et que du coup, on a mis de côté toute cette histoire multiséculaire où vraiment il y a une opposition entre le front méditerranéen et l'Afrique subsaharienne.
Alors en même temps, les Africains vivent avec. Je vous fais écouter un extrait.
Même si tu es devenu un député, même si tu es député, tu es captif. Même si tu es ministre d'intérieur, tu es captif. On va t'appeler captif. Et tu n'as pas ta dignité chez eux. Tu n'as pas une dignité. Tu n'en as pas.
Même si tu es député, tu es captif. Il est là cet héritage pourtant. Il est là. Il est tu, mais il est là.
Alors là, vous avez entendu la voix d'Intamat, voilà, qui est en fait un président d'une association abolitionniste qui essaie justement de sauver et d'aller chercher des captifs un peu plus loin, pas à Bamako, mais plus loin vers Tombouctou, qui sont encore, on va dire, dépendants de ce qu'on appelle les teints clairs, c'est-à-dire des Touaregs à peau plus claire, qui réduisent encore en esclavage leur administrés. Et donc, je crois que ça en dit long sur la pérennité. Ouais. Des structures de domination entre certaines castes qui dirigent d'autres castes. Et voilà. Et donc Intamat a été quelqu'un de très important pour nous puisqu'il a vraiment porté cette espèce de compréhension fine de la réalité des structures.
Et très contemporaine.
Et extrêmement contemporaine.
Voilà, concrète et contemporaine. Alors revenons, Fanny Glissant, sur cette question de la couleur de peau dans l'épisode numéro 3. Donc on est à l'apogée de la traite négrière en Amérique au XVIIe siècle. Parce que encore une fois, vous bouleversez les représentations qu'on se fait de l'esclavage. Ce n'est pas parce que les Noirs sont Noirs et que les Blancs sont blancs qu'ils ont esclavagisé les Noirs, c'est parce que les Noirs ont été esclavagisés par les Blancs que sont apparues en fait ces catégories raciales qui n'existaient pas auparavant. On écoute un universitaire qui s'appelle Marcus Rettiker.
Par exemple, quand les Africains montaient à bord des navires, ils embarquaient en tant qu'Ibo, Fanti ou Mende. Mais quand ils débarquaient, ils étaient devenus des gens de race noire. Et c'était la même chose pour les matelots. Les équipages étaient composés d'Anglais, d'Irlandais, parfois d'Africains, quand ils quittaient leur port d'Europe. Mais arrivés sur les côtes d'Afrique de l'Ouest, ils étaient devenus les Blancs.
Et voilà. Voilà qui ouvre les yeux et qui ouvre aussi le cerveau et la capacité de réflexion. Ce terme de blanc, en fait, n'existe pas avant les sociétés esclavagistes, alors qu'il nous a été toujours présenté comme des catégories immuables. Mais pas du tout.
Je crois que si vous allez au cœur de la Beauce et que vous demandez à un paysan s'il est blanc, pour lui, il ne peut absolument pas vous répondre, puisque pour lui, cette catégorie n'a aucune valeur. Mm-hmm. Donc ce qui était important pour nous, c'est de dire les mots ont une histoire, et ils sont aussi connectés à une réalité historique et à des phénomènes historiques. Et pour nous, ce qui était très important à dire, c'est que l'esclavage précède le racisme et non le contraire. C'est pas le racisme qui a engendré l'esclavage.
Personne ne me l'avait jamais raconté comme ça.
Je crois que c'est important de le redire.
J'ai simplement été à l'école comme tout le monde. Et ce terme de blanc se construit aux Antilles, ça aussi. C'est pas rien, dans votre histoire évidemment, ça n'est pas rien. Mais ce terme de blanc se construit aux Antilles. C'est-à-dire qu'il n'existait pas auparavant. Il y a aussi, si on revient au deuxième épisode, alors là c'est beaucoup plus ancien, mais j'avoue que je suis restée très étonnée. C'est-à-dire qu'on se rend compte que dans la conquête de l'Afrique et de l'Amérique par les Portugais, les Africains sont partie prenante. Les Noirs sont partie prenante de cette conquête et de ce commerce esclavagiste, et que il y a toute une élite noire qui vit à Barcelone, à Malaga, au Portugal, qui a les mêmes mœurs et les mêmes intérêts économiques que l'élite blanche, et que vous évaluez à 10% la population noire de ces villes européennes. Elle est passée où, cette population noire du 15e siècle ?
Elle s'est progressivement diluée dans la population. C'est-à-dire que aujourd'hui, on estime à 50 50 à 60% la population qui aurait des ascendances africaines. Mmh. Mais il y a un système après de blanchiment, c'est-à-dire que on veut enlever ce sang impur, qui est le sang servile, donc le sang africain, et progressivement, dans les états civils, on va gommer cette ascendance africaine. Voilà, donc vous avez des gens avec les cheveux, on va dire, bouclés, mais qui ne se rendent pas compte que en fin de compte, ils sont descendants d'Africains.
Et alors, c'est aussi une question que vous reposez à plusieurs étapes de cette série documentaire, c'est-à-dire celle du mulâtre, c'est-à-dire c'est une question, celle du métissage comme volonté politique. Ça aussi, c'est quelque chose qui est manifestement très très mal connu et peu pensé. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte que lorsque la population noire devient trop massive, trop homogène dans un endroit, elle représente un danger. Et donc, il y a volonté de métisser, il y a volonté de blanchir, comme à Sao Tomé, par exemple, qui a été une île africaine, qui a été un grand laboratoire des plantations et de l'esclavagisme.
Voilà, ça c'est très vrai pour le 15e et 16e siècle. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, pour contenir cette population noire, il faut absolument des contre-maîtres. Il faut, voilà, des contre-maîtres. Et comme on n'a pas la possibilité d'amener massivement des Portugais, on va dire, blancs, il faut bien inventer une population qui peut défendre les intérêts des Portugais. Et donc, on va rentrer dans une politique de métissage pour avoir des gens qui vont pouvoir porter les intérêts portugais.
Et vous le racontez bien aussi, c'est-à-dire que le métissage, c'est une autre forme de violence. On le pense rarement comme ça, mais c'est une autre forme de violence. C'est souvent issu du viol, et du viol comme arme politique.
Comme arme politique et comme arme de production, comme arme économique. Et ça, on va le voir aussi bien dans les Caraïbes qu'aux États-Unis plus tard, où vraiment les maîtres contrôlent le ventre des femmes. Voilà, et vont produire des gens qui vont pouvoir défendre leurs intérêts. Et ça, c'est vrai tout au long de la période de l'esclavage.
Alors, cette histoire de l'esclavage, c'est donc une histoire de la violence. Je vous propose d'écouter le journal d'un contremaître dans les plantations américaines.
Je suis arrivé comme contremaître à la nouvelle plantation il y a 2 semaines à peine. Et nous avons dû administrer justice à un nègre qui s'était échappé. Nous l'avons sévèrement fouetté. Et nous lui avons frotté du poivre, du sel et du jus de citron vert dans les plaies. 3 jours plus tard, le corps d'un autre esclave qui s'était enfui nous a été apporté. Je lui ai coupé la tête et nous avons brûlé le corps en public. Voilà la seule manière d'imposer notre contrôle sur les nègres. Dans cette affaire, ma cause devient celle de tous les colons. La condition malheureuse du nègre l'amène naturellement à nous détester. Il n'y a que la force et la violence qui peuvent le retenir.
Un mot, Fanny Glissant, qui est co-réalisatrice et productrice de cette série, Les routes de l'esclavage, sur sa mise en image. C'est-à-dire que ce type de témoignage est illustré à l'écran par de très belles animations qui sont faites par touches de peinture. Comment choisir le graphisme, comment choisir l'esthétisme quand on représente ces scènes absolument effroyables et très anciennes?
La grande question qu'on s'est posée avec Juan Gelas et Daniel Cati, qui sont les gens qui vont travailler avec moi dans la réalisation, c'était de se dire, mais comment représenter la violence? Comment représenter la barbarie et l'horreur? Et on pensait partir dans de la reconstitution en fiction, avec des vrais acteurs, nous paraissait complètement hors de propos. Et en même temps, il fallait changer de représentation puisqu'on était en train de changer nos concepts et notre vision de l'esclavage. Et on s'est dit, la seule façon de le faire, c'est de passer par l'animation. C'est d'avoir en fin de compte un point de vue subjectif pour pouvoir appréhender cette histoire. Mais ce point de vue subjectif, il pouvait pas être trop frontal. Donc, on a cherché un rendu peinture, un rendu qui pouvait être un peu organique, pouvait être un peu humain, un peu chaleureux,
très et en sensuel. Même temps
très sensuel, et qui devait être un peu pointilliste, j'ai envie de dire, impressionniste, pour laisser une part d'imaginaire au téléspectateur. Pour nous, c'était pas imposer une vision de l'esclavage, mais proposer quelque chose et laisser un espace à l'imaginaire.
Alors, je reviens à ce témoignage absolument effroyable, cette cruauté, cette terreur. Et il y a un pan entier de ce film sur l'économie de la terreur, sur les profits phénoménaux, et d'ailleurs encore à ce jour non évalués, engendrés par l'esclavage, et qui sont des profits du sang, issus du sang et de la terreur. Le code noir au XVIIe siècle est resté un symbole. C'est aussi, et on l'apprend dans le 3e épisode du film, c'est aussi une façon, comment dire, de ne pas pas abîmer la marchandise, de faire en sorte que les banques et les assurances qui ont mis énormément d'argent dans les routes de l'esclavage aient un retour sur investissement.
C'est une façon pour l'État d'imposer sa patte et sa main depuis la métropole aux sociétés, aux sociétés américaines, qui, elles, cherchent tout le temps à être indépendantes et qui sont totalement libérales et qui n'ont pas du tout envie qu'il y ait des codes juridiques qui viennent contraindre la mise en place de leur système et de la plantation sucrière. Donc ça peut rentrer comme une codification de l'esclavage, mais quotidiennement...
Avec des enjeux économiques et financiers immenses.
Mais du coup, les planteurs sont en fait peut-être plus barbares que ce que le code noir retranscrit. Voilà. C'est-à-dire quotidiennement, ils vont presque plus loin que ce que le code noir inscrit et marque dans ses...
Voilà,
dans
Parce ses, que le code noir, en réalité, articles. Pose des limites.
Exactement. Alors qu'en fin de compte, au XVIIe et XVIIIe siècle, il n'y a pas de limite. Il n'y aura une limite qu'à partir du moment où l'approvisionnement en captif va être plus difficile, à partir du moment où la traite va être interdite. Et là, on fera un tout petit peu plus attention aux esclaves. Mais il faut se rendre compte que la durée de vie d'un esclave sur une plantation, c'est entre 4 et 8 ans.
Alors, Fanny Glissant, vous êtes la fille d'un très grand écrivain, poète et militant antillais, Édouard Glissant. Le nègre marron, c'est l'esclave qui fuit, celui qui résiste. Et je vous propose d'écouter quelque chose qui n'est pas du tout dans le film, c'est la voix de votre père.
Il me semble que dans tout antillais, il y a deux êtres. Il y a la part de l'antillais qui accepte, qui reste sur la plantation, et il y a la part de l'antillais qui refuse, qui marronne. Et je crois que ce phénomène de marronnage culturel, c'est ce qui caractérise le plus essentiellement la production des écrivains antillais, et même des écrivains de la Caraïbe, qu'ils soient de langue anglaise, de langue espagnole, de langue française ou de langue créole.
Fanny Glissant, qui n'est donc pas la fille d'Édouard Glissant, qui est sa nièce.
Voilà, sa petite nièce.
Voilà, ce que je trouve très très beau dans ce son, c'est que en fait, on comprend bien qu'il y a finalement une ligne, et une ligne souvent mal comprise parce que très complexe, entre l'esclavage et la colonisation. Mais cette ligne-là, elle ressurgit aujourd'hui qu'on parle de mémoire et de devoir de mémoire, Fanny Glissant.
Tout à fait, je crois que on arrive à un moment charnière où les historiens ne se cantonnent plus, on va dire, à leur histoire nationale. Voilà. Et qu'ils ont décidé d'échanger leurs différents travaux. Donc on est vraiment sur la compréhension d'une histoire globale. Et quand on décentre le regard, quand on prend les choses d'un point de vue qui serait un point de vue africain, un point de vue sud-américain ou un point de vue nord-américain, on voit
point
plus
de vue
facilement.
Qui se mélange dans le film. Hein. Quand je dis 40 historiens, c'est 40 historiens dans le monde entier.
L'idée, c'était vraiment de faire un film choral. Et quand on commence à faire ce film choral, on voit des liens qui se connectent de façon presque plus évidente. Et donc, le continuum entre lutte contre l'esclavage et colonisation est évidemment plus évident à faire et plus facile à faire.
Et voilà. Puis, il y a aussi ce regard sur la colonisation qui a permis de faire évoluer le regard sur l'histoire. C'est-à-dire qu'il a fallu d'abord peut-être faire sauter et faire évoluer les mentalités sur l'histoire de la colonisation et le devoir de mémoire sur la colonisation pour pouvoir en venir à la vraie question de l'esclavage. Toutes celles que vous formulez qui n'ont jamais été formulées comme ça.
Oui, effectivement, je pense que là, on est vraiment dans un moment où tout ce qu'on appelle genre les post-colonial studies, subaltern studies, black studies sont en train d'émerger et effectivement, on n'est plus dans un moment de lutte politique, enfin, on est encore dans des moments de lutte politique, mais plus d'affirmation identitaire, on est dans un moment de partage de la connaissance où tout le monde, je pense, aussi bien en Afrique, sur la totalité du continent, qu'en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, est prêt à examiner ce phénomène dans sa globalité.
Merci beaucoup Fanny Glissant, je l'ai dit, co-réalisatrice et productrice des Routes de l'esclavage diffusées demain soir sur Arte, à revoir pendant 60 jours. Je rappelle que ce fut un livre d'abord, qu'il est coédité par Arte et Albin Michel, qu'il est signé Catherine Cochré-Vidrovitch et qu'elle sera l'invitée tout à l'heure de Jean Lebrun, La Marche de l'Histoire sur France Inter. C'est la fin de l'émission.